RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 17h05, c'est l'intégral tour. Que pensez-vous de Chris Froome, de son maillot jaune, de son équipe La Sky avec ses motorhomes luxueux et sa réputation sulfureuse? Visiblement, ce maillot jaune ne plaît pas à tout le monde. Chris Froome s'est fait chahuter ce week-end et dimanche lors de la 15e étape entre Mende et Valence. C'était plutôt tendu sur les vélos et sur les bords des routes et même dans la Dream Team RMC Sport.
400 encore à parcourir et toujours Schlibar qui tient en respect le peloton où on s'observe un peu. On ne sait pas trop
on gère
pour l'instant, Cyril. Ouais.
Mais on garde Zdeněk Stybar à portée de fusil. Il compte une petite cinquantaine de mètres d'avance, le vainqueur de l'étape du Havre, ancien champion du monde de cyclocross, Zdeněk Stybar, toute dans dehors la rage du coureur tchèque de l'équipe ETX Quickstep qui peut se retourner. Il aperçoit l'avant-garde du peloton emmené par les lotos Soudal, ils sont quatre les coureurs de la formation belge, avec évidemment en quatrième position André Greipel sur la flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Voilà, la bagarre est lancée, les sprinteurs vont s'en donner à cœur joie dans quelques instants.
Les Katyusha à 800 mètres de la ligne d'arrivée qui conduisent un peloton en file indienne. Deuxième position en ce moment pour Alexander Kristoff, le roi, le maître, l'épouvantail du début de saison 2015. Ouais. Toujours Fanny sur
Coquart est loin.
Dans la troisième, dans la roue de Kristoff, on trouve André Greipel. Peter Sagan est en 4, Degen Kolb en 5, Michael Matthews en 6. Tyler Farrar vient se positionner pour l'équipe MTN Kubeka. Brian Coquart est un petit peu plus loin, toujours un homme de l'équipe Katyusha pour emmener Alexander Kristoff. On est à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Les MTN Kubeka ont pris confiance avec la victoire de Stephen Cummings hier. Il lance le sprint avec André Greipel qui déborde sur la gauche de la route. Est-ce qu'il va faire la passe de 3? André Greipel à la lutte avec John Degenkolb, son compatriote allemand de l'équipe Giant Alpecin. Mano à mano royal entre Greipel et Degenkolb, alors qu'Alexander Kristoff vient se mêler à la lutte. Victoire d'André Greipel, troisième succès pour le gorille de Rostock. Victoire sans coup férir en résistant au retour de John Degenkolb. Le solide sprinter de l'équipe Lotto Soudal vient s'imposer devant John Degenkolb, impuissant, et Peter Sagan ainsi qu'Alexander Kristoff. Sprint royal ici à Valence.
Bravo, bravo André Greipel, le gorille a encore frappé. Il a battu tous les champions avec Degenkolb, avec Kristoff et Peter Sagan. Et oui, le cri du gorille pour la troisième fois depuis le départ de ce Tour de France.
Gare au gorille.
Il faut bien le dire. Non, mais je ne rigole pas du tout. Le Tour a peur, Georges, avec au lendemain de cette histoire et de cette petite tasse d'urine qu'aurait reçu Chris Froome, ce n'est pas la seule chose, hein, parce qu'on parle de coups de poing, on parle de cris, d'insultes, de crachats, enfin bref, toute la panoplie. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement et comment réagit-on chez Sky? A priori, c'est vraiment l'inquiétude. Hein, je ne sais pas là.
Effectivement, donc il y a donc ce jet d'urine contre Chris Froome, il y a les crachats dont auraient été victimes certains coureurs ces derniers jours, il y a les insultes. Le directeur sportif Nicolas Portal dit qu'il lui arrive parfois de recevoir des projectiles sur sa voiture. Ce matin, en tous les cas, au lendemain de ce désormais célèbre jet d'urine, il y avait une présence policière renforcée au bus Sky à Mende. 6 policiers. C'était un peu bizarre de voir ça lors de mon échauffement, disait Chris Froome tout à l'heure. On a rencontré Nicolas Portal ce matin, un peu encore choqué de ce qui s'était passé la veille. On va l'écouter, Nicolas Portal, qui se demande quand même si tout ceci est bien raisonnable. Jusqu'où cela va aller, Nicolas Portal?
Ça s'arrêtera où, quoi? Ça s'arrêtera où? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un un jour aussi qui va franchir le pas et puis de faire vraiment quelque chose qu'on a pu voir dans le passé dans le football, hein? Les gens passent au-dessus des barrières ou avec des armes à la main, quelque chose comme ça. Donc là, les gars, ils sont juste aussi près que moi, que des micros, que du public. Donc forcément, ils ont peur, quoi.
Voilà, ils ont peur. En tout cas, c'est pas ce qu'a dit Chris Froome ce soir, qui lui a dit, moi, ça va aller pour le moment. Christopher Froome qu'on va écouter après cette étape où aujourd'hui tout s'est bien passé. Hein. Apparemment, il a même remercié le public qu'il a soutenu. C'est pas comme ça tous les jours. Hein. On a vu des jours des pancartes avec des insultes contre Chris Froome. Aujourd'hui, c'était plutôt tranquille. Il faut reconnaître. Faut pas non plus dire que c'est la guerre mondiale contre Chris Froome tous les jours. Aujourd'hui, ça allait. Chris Froome l'a dit. Il est pas non plus tombé dans la paranoïa. Voilà, exactement. On va l'écouter, le maillot jaune.
Écoutez, l'atmosphère sur la route était fantastique aujourd'hui. Et de ce que j'en sais, il n'y a pas eu d'incident. Je n'ai pas peur, je me concentre sur les courses de vélo. J'ai un boulot à faire ici. Maintenant, c'est évident que ça me préoccupe. Si on a des spectateurs qui interfèrent dans la course de cette manière, c'est évident que cela va préoccuper tous les coureurs.
Et puis le dernier qui s'est exprimé là-dessus, c'est Dave Brailsford, le manager de la formation Sky, qui nous a répondu alors qu'il se rendait sur le plateau du service public. J'ai trouvé un peu dégoûté, écœuré par la situation. Vous allez l'entendre, Dave Brailsford, le manager de Christopher Froome.
Vous savez, ça fait longtemps que j'habite en France, moi. J'ai mon père qui habite ici depuis 40 ans. Il est guide haute montagne. J'ai un fiole. Je connais énormément des Français qui sont très, très gentils. Moi, j'adore la France. Alors, ça fait un peu... Ouais, c'est triste, quoi, de voir les réactions de quelques... Une minorité, faut dire. Mais quand même, je pense qu'il y a une limite. Je pense qu'il y a une ligne. Il faut pas franchir cette ligne. Alors là, puis avec nos voitures, des personnels, tout ça, c'est agressif quand même. Hein. Ça fait peur. Hein. Peut-être dans le foot et tout ça, on a l'habitude de ça, mais c'est embêtant qu'on trouve ça dans le vélo quand même.
Voilà, Dave Brailsford, le manager de la formation Sky. Oui, Georges, tu le disais, parce que toi, tu es notre taupe hein, sur le terrain. Tu es dans la course avec les coureurs, avec les spectateurs sur le bord de la route. Est-ce que tu ressens cette ambiance délétère dont nous parle Dave Brailsford, Nicolas Portal ou encore à moindre degré Chris Froome, même s'il en parlait hier. Est-ce que tu ressens cette atmosphère après... Est-ce que c'est la même atmosphère, par exemple, qu'il y a quelques années, lorsque Contador était sifflé sur les bords des routes du Tour?
Bon, après, c'est toujours difficile de savoir exactement, parce qu'on n'est pas non plus au contact tout le temps de Chris Froome et des voitures de l'équipe Sky, mais on a vu, oui, des panneaux dans les Pyrénées, Armstrong égale Froome, certains cris, certains... Après, on n'était pas...
Pendant des années, on voyait des panneaux...
Après, attention, on n'est pas à côté des coureurs de l'équipe Sky. Évidemment, je ne suis pas à côté de Geraint Thomas quand je suis sur la course, par exemple, pour recevoir des crachats. Je ne sais pas s'il a reçu des crachats, j'ai pas été témoin. Ouais, je ne suis pas à côté de la voiture de Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe, pendant toute l'étape, pour savoir s'il reçoit effectivement des projectiles. En tous les cas, c'est ce qu'ils nous disent. C'est difficile d'être témoin de tout, évidemment.
Lucho, tu étais coureur en 1998 après l'affaire Festina, évidemment, ce tour. Là, pour en l'occurrence, c'était vraiment un tour délétère. Moi, j'étais commentateur déjà sur ce tour-là. Comment ça se passait à l'époque? Est-ce que vous étiez insulté sur le bord des routes ou au contraire applaudi, encouragé?
Il est aussi encouragé, Froome. Hein,
ouais, bien sûr.
Quand même très encouragé. C'est ce qu'on entend le plus. Hein. Mais très encouragé.
Est-ce que ça mine un coureur lorsqu'évidemment on entend dopés ou des gens de ce genre de choses là?
C'est une minorité, parce que par rapport
par
rapport à mes souvenirs, on était plus encouragés sur le terrain en 98 que hués.
C'était les journalistes qui étaient hués, je te le confirme.
Oui, d'ailleurs il y a la protection, je pense qu'elle était
c'est toujours vrai aujourd'hui, hein.
Oui, non, mais la protection, c'est les journalistes qui devaient l'avoir à l'époque, mais c'est vrai que nous on était quand même très soutenus.
On était obligé d'enlever, on le disait tout à l'heure dans le direct avec Cyril, à l'époque nous étions sur une autre radio, on destiquait les voitures parce que on prenait des pierres sur les voitures pour avoir osé dire que
votre faute.
Oui, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. je sais pas si tu as entendu Christian Prudhomme ce matin, on va peut-être l'écouter tout à l'heure. Bon, en l'occurrence, est-ce que c'est des choses qui arrivent sur le Tour de France? C'est pas une nouveauté là, on a l'impression de tomber du ciel.
Je crois qu'ils n'ont jamais connu le Tour de France.
Mais c'est la liberté d'expression de chacun.
Ça a toujours existé à l'époque Bobet, Anquetil, ça existait.
C'est pas Anquetil, se faisait insulter en Italie lorsqu'il était en concurrence avec Poulidor. Anquetil se faisait.
Rappelle-toi le Giro en Italie quand le blaireau se faisait balancer des trucs devant sa roue, même autour d'Espagne.
Attendez, rappelez-vous, vous avez un des coureurs les plus populaires de France, des panneaux disant Virenque dopé, machin, les Festina. Il y a toujours eu des pancartes sur le bord des routes où vous en avez qui disent bravo telle équipe, bravo tel coureur, et puis vous en avez toujours une de temps en temps qui fait que, alors, de deux choses l'une, où on parle des quelques panneaux qui vont être antipathiques à certains coureurs ou certaines équipes, il faut parler des millions des autres, des gens qui insultent sur le bord de la route. Oui, il y en a, mais ça représente quoi?
Le problème, c'est qu'on fait un pataquès pour une personne qui a fait le bazar.
Rien.
Voilà. Sur les centaines de milliers.
Il n'y a peut-être pas qu'une personne, voilà. C'est ça. Parce que là,
a priori, qui dit qu'il a pris un coup de poing dans la montée de la Pierre Saint-Martin.
Ça,
dans la montée de la Pierre Saint-Martin avant que les polémiques. Les coureurs qui disent qu'ils sont crachés dessus.
Enfin, il faut qu'ils fassent attention. Bon, les insultes, tu peux pas les éviter. Mais les coups de poing et tout ça, il faut qu'ils fassent gaffe. Parce que la police leur tombe dessus, c'est la tôle.
Évidemment.
Mais là, c'est grave, quoi. Alors, c'est grave.
Alors, mais évidemment, ils sont pas réfléchis, on ne va pas cautionner, on va pas cautionner tout ça, évidemment. C'est l'œuvre, c'est l'œuvre.
Enfin, on le condamne. Non, attends, moi, ce que je trouve bizarre, Christophe, ce que je trouve bizarre, c'est le décalage entre le discours de Braiford et le discours du directeur sportif Fortal et celui du coureur lui-même.
Oui.
On n'est pas dans le même discours aujourd'hui.
Oui, mais Chris Froome a peut-être envie de calmer le jeu.
Le monde ferait bien de calmer le jeu par rapport à ça.
Mais si Chris Froome commence à dire qu'il a peur...
Mais il ne l'a pas dit aujourd'hui.
Mais non, justement, c'est pour ça.
Il n'a pas dit qu'il avait peur aujourd'hui.
Il faut rappeler également, messieurs Thierry, il faut rappeler quand même que le sport cycliste se déroule dans des conditions un peu différentes des autres sports. C'est-à-dire que on n'est pas dans un stade de foot où les spectateurs et les fous furieux sont parqués derrière des grilles.
On l'a vu dans l'ascension de la Pierre Saint-Martin l'autre jour. Chris Froome, il a dû faire son chemin avec
c'était pas le seul.
Bien sûr, mais c'est pour montrer aux gens qui comprennent pas la proximité qu'il peut y avoir avec le public, mais il est obligé de lui-même avec son bras de faire son chemin pour
ils étaient là pour l'applaudir.
Oui.
Il y a de grandes chances, bien sûr.
Il y a personne qui l'a frappé, pas plus que Quintana qui était derrière, pas plus que les Français qui étaient derrière.
Est-ce qu'on a peur lorsqu'on est coureur du Tour de France, quand on est justement dans ces circonstances-là, très près des spectateurs déchaînés? La montée de l'Alpe d'Huez, messieurs, c'est quand même un truc, ça fout.
Mais on n'a pas peur, on est dans le mouvement.
Moi, sur la moto, j'ai eu la couille dans la montée de l'Alpe
d'Huez. Sur le vélo.
Faut le dire. J'étais pas sur le vélo.
Mais sur le vélo, on n'a pas peur.
Non, mais on n'y pense pas à tout ça, on n'y pense pas, on est tellement pris sur le vélo par l'effort et tout, mais au contraire,
on est dans l'euphorie, on n'est pas dans autre chose.
Ça nous rend enthousiaste de voir ce public qui s'écarte au dernier moment et ça découpe.
Et puis, je
peux
vous dire une chose, c'est que derrière, ils sont bien contents de les avoir parce que ça pousse. Hein.
Sauf que Froome, il y a deux ans sur la montée de l'Alpe d'Huez, ce que nous rappelait Nicolas Portal ce matin, il a pris également quelques coups, il a reçu des liquides un peu bizarres et c'était la même chose sur la montée du Sennose. Ce que je veux dire, c'est qu'il a déjà eu l'expérience de ces trucs-là.
Attention, les gens sont pas de l'appréhension derrière.
T'en as qui sont à 4 grammes depuis le matin. Hein.
Que, juste de te pousser, tu prends des coups. Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément des coups pour te faire mal. Les gens se rendent pas compte que en te mettant une tape dans le dos comme ça, alors que t'es en train de monter, ça te fait pas forcément du bien.
Le blaireau s'est plaint souvent d'ailleurs de cela.
Voilà, exactement. Faut pas. Bon, après.
Et lui, il disait pas qu'il prenait des coups de poing. Il disait des supporters qui sont trop brutales.
Il a peur des choses.
Pierre-Yves Leroux est entré dans notre petit camion. Il a des informations à nous communiquer concernant justement la protection rapprochée autour de la formation Sky. Il paraît on aurait engagé des mercenaires venant d'Irak pour les protéger. Non, c'est pas ça, Pierre-Yves.
Non, c'est pas ça du tout. Non, je me suis entretenu avec les gendarmes et avec la police qui sont chargés justement de la sécurité. Il y a rien de plus d'engagé auprès de l'équipe Sky que ce qui se fait classiquement pour un maillot jaune. Ce qui s'est passé ce matin, c'est que le bus était placé en début de parking et c'est une zone où il faut surveiller un petit peu plus pour organiser le passage des gens. Il n'y a pas d'interaction du tout entre ce qui s'est passé et la présence policière qui était un petit peu plus forte peut-être ce matin. Il n'y a aucun renforcement du dispositif de sécurité pour l'équipe.
Donc c'est encore un
Sky.
Coup des médias, hein. C'est les médias qui ont mal interprété la chose. C'est encore les médias, hein.
Non, c'est Froome qui tout à l'heure disait c'était impressionnant d'avoir
Froome
autant
lui-même
policiers.
C'était bizarre d'avoir la porte de l'ordre.
Moi, je l'ai vu là dans de la paranoïa.
Moi, je l'ai vu la scène. Oui. Il y avait là où ils s'échauffent les coureurs de l'équipe Sky avec leur home trainer, il y avait 5-6 policiers autour. Moi, cette scène-là, je la vois jamais au départ.
Bien sûr.
Et je suis pas le seul à m'être posé la question. On était plusieurs.
Mais là, je viens d'avoir la réponse des policiers eux-mêmes et qui me disent on ne connaît pas encore l'organisation du parking demain. Ça sera peut-être complètement différent.
Je sais plus qui disait que le motorhome de Sky était venu ce matin au départ, mais sans les.
C'était ce soir. Mais ça, c'est
plus ce soir. Ça n'a aucun rapport. D'accord. Très bien. Merci Georges. Merci Pierre-Yves. On va accueillir Didier au 32-16 qui voulait intervenir dans notre débat. Bonsoir Didier.
Bonsoir Christophe, bonsoir Cyril, bonsoir Luc, bonsoir Thierry. Un court préambule, ne changez rien, hein, continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à apporter votre expertise ô combien importante sur le Tour de France que nous vivons actuellement. sur, on va dire, la paranoïa dont s'estime victime l'équipe Sky. Je voudrais pas non plus qu'on arrive à considérer que le Tour de France est devenu le terrain de jeu d'un certain terrorisme sportif. Par parenthèse, lorsque Nibali a remporté le Tour de France l'année dernière, on n'a pas senti de la part du public des réactions, on va dire, hostiles, entre guillemets, bien entendu. Il faut garder raison.
Et pourtant, Didier, comme chaque vainqueur du Tour, des questions ont été posées aussi sur sa formation Astana. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'un leader du Tour de France suscite quelques questions. Je veux dire, depuis toujours, c'est le cas. Hein. C'est pas nouveau là non plus pour la formation Sky. Nibali aussi, on s'en souvient l'année dernière, Cyril.
J'entends bien, Christophe, j'entends bien ce que tu me dis, mais peut-être faut-il voir là aussi ce sont des fourches caudines sous lesquelles il faut peut-être que l'équipe Sky passe, parce que c'est la rançon à payer d'une domination forte qui s'exprime aujourd'hui sur le Tour de France. La production, c'est Froome premier et Geraint Thomas dans les, je sais pas sa place exacte, mais dans le top 10. Donc voilà, est-ce que le fait d'avoir une posture de vainqueur et d'affirmer ses ambitions fait que on ne puisse plus rien dire, on ne puisse plus rien faire?
Je pense qu'il y a aussi du dépit de la part des spectateurs ou des
suiveurs
du Tour de France, c'est-à-dire que tout le monde s'attendait au Tour le plus sexy de ces 30 dernières années, avec les quatre fantastiques qui étaient au départ, et le super fantastique les a tués dès la première montée. Donc il y a un peu de dépit sans doute de la part et dans des esprits un peu faibles. Évidemment, celui qui a tué le suspense, celui qui a tué le spectacle, on l'agresse.
C'est ce que nous a dit le directeur du Tour, Christian Prudhomme, ce matin. Hein. Il dit je comprends qu'il y a aussi un peu de frustration.
On s'accordera pour considérer Christophe que ça reste encore le fait d'une infime minorité.
Mais évidemment. Mais malheureusement, les minorités agissantes...
On parle que d'eux.
Parce que
c'est
les minorités qui ont eu le Tour de France.
Je ne sais pas, je pose la question.
Ouais, mais, très bien. Merci en tous les cas, Didier, d'être venu au 32-16 pour donner votre analyse sur cette situation. S'il vous plaît, soyez sympa avec les coureurs sur le bord des routes. Ce sont des guerriers, ce sont des garçons qui font des efforts incroyables. Ça fait 2 semaines qu'ils sont dans des conditions terribles, avec la chaleur, avec les fatigues, avec les chutes. Ils vont attaquer les Alpes dans quelques jours. Ce sont tous des champions qui méritent le respect. Donc, s'il vous plaît, respectez les coureurs, tous les coureurs du Tour de France.
RMC Intégral Tour.
Chris Froome a le maillot jaune, pendant ce temps-là, Peter Sagan enfile le maillot vert, meilleur sprinter mais aussi éternel second. À tout de suite dans l'Intégral Tour sur RMC.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
Il est 17h25, c'est l'Intégral Tour. Allez, je vous pose un petit problème de vacances. Vous préférez gagner une étape du Tour sans avoir de maillot distinctif à la fin ou ne pas gagner d'étape et enfiler le maillot vert? Le maillot vert, je ne connais pas la préférence de Peter Sagan, mais le fait est là, toujours deuxième des étapes. Mais c'est bien lui qui a le maillot vert de meilleur sprinter. Qu'en pense la Dream Team RMC Sport?
Le final de cette 16e étape du Tour de France, nous sommes à moins de 20 km de l'arrivée. Il fait de la résistance espagnol, 30 secondes, il faut pas se regarder, autrement l'Espagnol va s'envoler vers la victoire.
Oui, le longiligne espagnol Rubén Plaza qui se retourne beaucoup quand même, je trouve. Il compte toujours une trentaine de secondes de retard sur ce groupe de 9. Est-ce que Peter Sagan est en train de filer vers sa 5e deuxième place? La présence du maillot vert slovaque dans ce groupe de contre-attaque est en train peut-être de condamner ce groupe, parce que personne ne veut rouler avec Peter Sagan. Sagan qui semble une jambe au-dessus de tout le monde encore aujourd'hui. Lui qui en est, on le rappelle, à sa 3e échappée consécutive. Cyril, il est trop gros, Peter Sagan, musculairement et bien au niveau de son aura et de sa classe intrinsèque. Il est trop impressionnant pour ses compagnons de contre-attaque.
Oui, et on l'a vu hein, tout à l'heure, après le premier classement de la montagne, il était carrément passé à l'offensive dans la descente d'une part, et puis il était ressorti après. Visiblement, il a des jambes de feu aujourd'hui, enfin depuis 3 jours. Maintenant, il est débarrassé un petit peu, j'ai envie de dire, du classement, pour le classement du maillot vert. D'autant que là, il va encore aller marquer des points, bien sûr, à l'arrivée. Mais il paraît trop fort, et quelque part, il condamne ce groupe, car personne ne veut rouler pour emmener Peter Sagan. On sait que si on amène Peter Sagan, eh bien, on aura on aura un compliment après l'arrivée. Mais on court pour gagner, là, on court plus pour faire deux. Et Peter Sagan a la possibilité, lui, il a deux possibilités. C'est qu'il peut rentrer seul dans la descente, car on sait, on connaît ses qualités cyclistes, on connaît ses qualités de descendeur. Donc il faudrait qu'il passe avec, allez, on va dire, moins d'une minute au sommet. Et dans la descente, il pourrait encore refaire le retard. Mais on n'est pas encore arrivé au sommet. Il doit rester deux petits kilomètres encore.
Avec donc cet Espagnol, Plaza, qui est en tête et qui possède quasiment une minute d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée. Ça ne s'entend toujours pas dans ce groupe. Sagan qui mène ce petit groupe pour l'instant. Il ne fait pas la descente à bloc, mais ça va pas tarder car on va vraiment rentrer dans la descente dans quelques instants.
Et dans les champs du Champsaur et du Gapençais autour du col de Mans, les étourneaux ont peur des épouvantails. Cette fois, les contre-attaquants ont peur de Peter Sagan. Sagan qui condamne le groupe de Christophe Riblon, notamment avec Bob Jungels, avec Dani Navarro, l'Espagnol de Cofidis. Sagan qui va devoir travailler tout seul pour revenir sur un homme de tête, Ruben Plaza, qui compte toujours 55 secondes d'avance au début de la descente de la côte de la Rochette. Peter Sagan qui a d'incroyables talents de descendeur, mais il a du monde sur le porte-bagages. Il va falloir qu'il les sorte en prenant un maximum de risques. Ça y est, on attaque la descente de la Rochette en direction de Gap.
55 secondes.
Hein. 55 secondes à 9 km de l'arrivée.
9 km de l'arrivée, Plaza va-t-il réussir son pari fou, lui qui a donc attaqué tout à l'heure dans la montée de ce col de Mans, fausse en compagnie à ses anciens compagnons d'échappée. Derrière, ça s'est très très mal entendu. Peter Sagan, qui tout à l'heure a montré qu'il était un formidable descendeur, va-t-il tout tenter dans cette descente du col de Mans pour aller remporter enfin sa première victoire d'étape sur les routes de ce Tour de France 2015? C'est tout le suspense de ces 8 derniers kilomètres, Fred.
Peter Sagan reste pour l'instant en deuxième position, prise de risque maximum parmi les contre-attaquants, mais aussi à l'avant avec Ruben Plaza qui, dans la descente de la Rochette, a chassé de l'arrière, dérapage contrôlé pour l'Espagnol de la Lampré, âgé de 35 ans, vous l'avez dit. Cette côte, cette descente est particulièrement technique. Pendant ce temps-là, Peter Sagan est en train de s'envoler dans la descente. Ce sera dur pourtant de combler l'écart qui le sépare de l'ancien champion d'Espagne. 40 secondes d'avance pour Ruben Plaza sur Peter Sagan, qui est en train de jouer un numéro d'équilibriste, des réflexes de vététiste, que ce soit en position de recherche de vitesse ou au freinage. Peter Sagan est en train de donner la leçon. Il y a tout à apprendre à regarder Peter Sagan qui descend à la poursuite de Ruben Plaza, qui passe sous la banderole des 5 km. Ruben Plaza qui est complètement mal à l'aise. Lui, le grand gabarit longiligne, Peter Sagan, lui, tire tout droit. Il adopte des trajectoires de skieur de vitesse. 25 secondes d'avance pour Ruben Plaza à 4 km de l'arrivée. Il est dans le final de la descente. Ruben Plaza qui descend comme un fer à repasser. Comparativement à Peter Sagan. Peter Sagan, toujours le buste collé à son cintre, le menton sur la roue avant et le cul qui touche le tube horizontal. La selle lui rentre quasiment par-dessus le dos. Vous avez là la position d'un descendeur de KL. Vous savez, c'est skieur de vitesse. Il prend des trajectoires de fou furieux. Peter Sagan qui revient à 20 secondes maintenant, tandis que Ruben Plaza en a désormais terminé avec la descente de la Rochette.
Donc c'est un véritable contre-la-montre que va livrer maintenant Peter Sagan. 30 secondes d'écart par rapport à Plaza. Va-t-il réussir à rattraper ses 30 secondes ou va-t-il une nouvelle fois terminer deuxième d'une étape du Tour de France?
Peut-être que la gourmandise de Peter Sagan lui a coûté cher là dans sa dernière erreur de trajectoire. Ce n'est pas une erreur, c'est une prise de risque totalement assumée. 30 secondes au dernier pointage à 2,5 km de l'arrivée.
C'est cuit pour Sagan.
Ce sera très dur pour Sagan face à Ruben Plaza, même si Sagan a un moteur d'enfer dans les jambes, le musculeux maillot vert slovaque qui est peut-être en train de filer, écoutez bien, vers sa cinquième deuxième place depuis le Tour 2015, arrivé dans 2 km pour l'Espagnol Ruben Plaza qui a toujours 25 secondes d'avance sur Peter Sagan.
C'est terminé car l'instant même, Ruben Plaza franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Et une bagarre également dans le groupe maillot jaune dont s'est extrait Vincenzo Nibali, le vainqueur sortant du Tour de France, qui n'a plus grand chose à jouer au général, relégué à plus de 8 minutes, mais qui veut creuser des écarts, qui veut montrer qu'il est quand même un grand coureur cycliste.
Alors que Bardil est parti à la faute, je crois.
Il a envoyé Geraint Thomas dans le décor en le touchant de l'épaule. Il n'a pas réussi à contrôler sa trajectoire. Geraint Thomas qui est parti, qui a touché un poteau et qui est tombé derrière dans le fossé, hein, Fred.
Il a tiré tout droit. Warren Barguil a chassé de l'arrière, là même où Ruben Plaza avait chassé tout à l'heure. Warren Barguil qui a déchaussé à droite, mais en tirant tout droit, il est rentré dans Geraint Thomas qui lui a été propulsé dans le talus, emmenant avec lui des spectateurs et des chaises en plastique. Geraint Thomas, on vous le rappelle, rappelle, sixième du classement général, le coéquipier de luxe de Christopher Froome qui a pris le poteau, heureusement qu'il a le casque, il s'est relevé, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit reparti pendant ce temps-là. Vincenzo Nibali met tout le monde dans le dur. Alberto Contador lance le sprint de ce maillot jaune. Il réglera ce groupe maillot jaune avec moins de 30 secondes de retard sur Vincenzo Nibali qui a prouvé une nouvelle fois que c'était un coureur de panache.
Peter Sagan qui signe donc une cinquième, deuxième place sur les routes de ce Tour de France. Malgré tout, Lucho, ça y est, on a retrouvé Lucho. Malgré tout, il avait l'air quand même plus satisfait de cette deuxième place que des autres. Là, avec ce qu'il a montré, et notamment le sourire complice de son PDG, Oleg Tinkoff, montrer qu'aujourd'hui, bon ben voilà, il a vraiment fait le métier. Hein.
Oui, mais il n'est pas déçu de sa performance. Mais c'est sûr, il fait encore deuxième. Mais ceci dit, il a tout donné dans la descente. Il a fait un véritable exploit et un numéro d'équilibrisme extraordinaire dans cette descente. Je crois que c'est vraiment une école de vélo pour les jeunes qui ont regardé cette dernière descente avec Sagan à bloc. Franchement, je me suis régalé, mais j'ai fermé les yeux et je me...
Il a poussé des cris, même.
J'ai même fait la réflexion à Fredo. Je me suis dit à un moment donné, j'ai dit mais comment on faisait sur le vélo, mais comment on fait? Comment on fait? Parce qu'on se rend pas compte. Mais non, mais je descendais pas mal quand même. Mais je descendais pas comme Sagan, bien sûr. Mais je veux dire là, comment on faisait à l'époque pour descendre comme ça, même moins vite que Sagan, parce que je descendais moins vite que Sagan. Mais il fallait quand même descendre des cols et tout ça. On prenait des risques. On prenait des risques.
C'est ça,
alors
tu veux dire,
on n'y pensait pas. Mais non, mais on n'y pensait pas. Quand on est sur le vélo, on pense pas à tout ça. Et quand on est dans la voiture, quand on suit les coureurs, oh là là, il y a des fois on ferme les yeux. Là, comme j'ai fermé les yeux quand je regardais Sagan à la télé tout à l'heure, c'est impressionnant.
Ouais, mais pas les yeux, non, c'est la voiture qui aurait fait
mais
tout
c'était,
droit.
Non, mais c'était vraiment magique à regarder. Et le fait que Tinkoff, le grand patron, soit présent à l'arrivée, qu'il ait le grand sourire, il s'est rendu compte de ce que c'est vraiment le vélo et ce que c'est qu'un coureur cycliste. Le risque qu'il peut prendre pour la gagne. Ouais. Voilà.
Bah, ce serait bien qu'il en prenne compte,
quoi. Voilà. Ouais. C'est admiratif, quoi, de voir. C'est l'admiration.
On va l'écouter, Peter Sagan, donc, à l'arrivée. Deuxième, je vous le disais, à 30 secondes du vainqueur du jour, l'Espagnol Plaza. Peter Sagan.
Si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez jamais. J'ai essayé, mais j'ai échoué. Encore une deuxième place. Mais tout va bien. Je suis content. C'est vrai que je suis malchanceux, mais tout le monde me regardait et prenait ma roue. Personne n'a voulu travailler. Tout le monde voulait être avec moi jusqu'au bout. Mais tout va bien, je suis content de ce que je fais ici.
Voilà, content de ce qu'il fait ici, content parce qu'en plus, Cyril, Peter Sagan est quasiment certain ce soir de ramener dans moins d'une semaine maintenant un nouveau maillot vert sur les Champs-Élysées, le quatrième de sa carrière. C'est pas mal à son âge quand même. Hein. Il y en a qui ont mis 10 ans, 15 ans avant d'atteindre un tel total.
Hein. Il y a pire. Non, c'est parfait. Alors, il dit qu'il a pas de chance. Bon, alors, je voudrais quand même ajouter que cette victoire lui échappe aujourd'hui, vraisemblablement à cause de lui, parce que il fait la descente du col du Cabre. Là, il met tout le monde à la rupture dans la descente. Il crée des animosités contre lui. D'ailleurs, il se fait reprendre par les premiers coureurs qui viennent le rechercher et qui lui demandent s'il n'est pas un peu fêlé de la cafetière. Bon, peut-être un peu vexé de se faire rabrouer par les coureurs de l'échappée. Qu'est-ce qu'il fait? Il en remet une derrière. Donc là, on va le rechercher. Et à partir de ce moment-là, il a pratiquement fait l'unanimité contre lui. Alors il dit effectivement, tout le monde était sur moi. Oui, d'accord. Mais il n'avait pas à bouger à ce moment-là.
Il a cherché un peu.
D'autant que derrière, il s'est fait attaquer de tous les côtés. Et il a été obligé d'aller chercher. À partir du moment où lui-même avait allumé le premier pétard, les autres pétards sont partis. Donc 10 fois, il est obligé d'aller chercher des coureurs. Et c'est ce qui lui manque dans l'ascension pour pouvoir accompagner Ruben Plaza. Hein, c'est tout. Donc c'est pas de la malchance.
Les autres exagèrent un petit peu.
C'est pas de la malchance. C'est une faute de tactique, une faute de stratégie et une faute, on va dire, pédagogique.
Il en commet quand même pas mal des fautes, Bourgui Sagan, parce que c'est un coureur qu'on adore. C'est sans doute le plus rock'n'roll. Il a une gueule, vraiment une gueule de star.
Une belle gueule.
Ah, il a une super gueule. Il est costaud. Il est impressionnant. Il fait le spectacle. Mais c'est vrai qu'il commet quand même pas mal d'erreurs. Même si aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé tout à l'heure avec Cyril. J'avais pas vu comme ça. J'avais pas vu que...
Je pense que t'es
un peu sévère quand même sur ce coup-là.
Ouais, ah non, pas du tout alors.
Je pense
moi, si je suis coureur, je suis avec Peter Sagan.
Tu roules pas.
Je roule plus, hein.
Non, comme mais voilà, mais je lui fais. Cyril, il n'avait pas besoin d'attaquer.
Parce que de
toute façon, les mecs, avant la bosse, ils n'allaient pas lui faire le cadeau de l'emmener gentiment jusqu'à l'arrivée.
Mais même s'il avait attaqué,
mais les autres, ils se sont attaqués
dans la descente. Même s'il n'avait pas attaqué dans la descente, il y aurait eu le même scénario.
Bien sûr.
Il le savait, il a une énorme bacante dans le dos. Tout le monde sait que c'est un grand descendant et qu'il va plus vite que les autres.
Il fallait qu'il garde assez de force pour basculer à moins de 20 secondes d'un homme échappé.
Ouais, mais tu crois qu'il a plus de force?
Moi, je sais comment ça se passe, et Bourgui aussi. À partir du moment où tu commences à te mettre des coureurs à dos, ce sont. Tu peux plus derrière.
Tu penses qu'ils auraient collaboré avec.
Non, mais ils seraient allés plus loin. Il y a beaucoup d'efforts qu'ils n'auraient pas fait.
Il y a beaucoup d'efforts.
À un moment, il y a eu une cassure de 3 à 4 coureurs. Il a été obligé de boucher le trou tout seul. Attendez, c'est pas gratuit, ça.
Oui, mais Cyril, je suis d'accord avec toi, avec Thierry aussi.
Merci.
Mais bon. Non, mais attends, le problème, c'est qu'il y a quand même. Non, mais il y a quand même un paquet de coureurs en tête devant. Ils se sont tous enterrés quand même avec Sagan, quoi. Je veux dire, ils ont loupé la victoire parce que Sagan, dans le col du Cabre, il a fait la descente à bloc. Alors. Parce qu'il a fait la descente à bloc dans la descente du col du Cabre, on le punit derrière et ils se punissent eux-mêmes.
Mais
voilà,
mais
ça veut dire que leur équipe n'a pas eu de victoire, ils ont laissé partir.
C'est pas Sagan qui a gagné.
Mais oui, mais d'accord, mais ils ont laissé partir.
Donc il s'est fait faire marron.
Oui, mais ils ont laissé partir l'Espagnol, ils ont couru que sur Sagan, au lieu de se concentrer sur leur course et d'essayer de suivre l'Espagnol et de faire la descente comme l'Espagnol. Mais
non, ils avaient tous perdu.
De ce côté-là, je suis pas d'accord non plus sur le fait que Sagan, il fallait marquer Sagan. Ils étaient une douzaine, voire plus devant. Donc il fallait faire la course pour la gagne. Les autres
sont tirés. Tu dis, ils avaient tous perdu, donc ça sert à rien de faire les échapper. En quelque sorte.
Tu arrêtes.
Christophe, tu l'as dit, Plaza a bien joué. Il a attaqué il fallait pas attaquer avant. Il fallait collaborer jusque à cette bosse, comme dit Cyril, et puis essayer de sortir Sagan. Et c'est ce qu'il a fait, parce que Sagan, bon, même s'il grimpe bien, avec un. Il fallait encore avoir la force d'attaquer comme Plaza.
Ouais, mais
parce
que les autres, ils ont attaqué,
c'était un peu les pétards mouillés aussi, ce qu'ils ont mis.
Ouais, mais c'est une mauvaise stratégie des autres, Thierry Carême.
Tout le monde est rincé, de toute façon, j'ai l'impression.
Ouais, c'est normal.
On a vu derrière la moindre accélération, les mecs, ils ont tous sauté.
Je pense qu'à partir de mercredi, on risque de voir pas mal de défaillances. Oui. On en reparlera. Tiens, Charles est avec nous au 32-16. Il nous appelle de Paris, Charles, pour intervenir dans notre débat, pour parler de Peter Sagan. Bonsoir, Charles.
Ouais, bonsoir, Christophe. Bonsoir, l'équipe.
Effectivement,
Sagan, moi, il m'a impressionné en descente. Quel numéro d'équilibriste. Je suis d'accord avec vous. C'est impressionnant ce qu'il fait. Et alors, en montée, il a été monstrueux parce qu'il répondait à toutes les attaques. Assis sur la selle, il tombait une dent, on le voyait, il revenait sans paniquer. En revanche, je suis totalement d'accord avec Lucho, c'est quand il dit que les coureurs voulaient absolument faire perdre Sagan. Ils n'avaient rien à foutre limite de perdre eux-mêmes, il fallait à tout prix perdre Sagan, parce que si Sagan perdait, avec la, ils avaient réussi leur étape. On aurait dit, il a une telle pancarte dans le dos que c'est vraiment leur objectif. Alors moi, j'aimerais simplement ajouter une petite précision, c'est que vu la forme qu'il a en ce moment, Sagan, vu les facilités qu'il a en côte, et c'est pas nouveau, rappelez-vous qu'il gagne le Tour de Californie avec une montée de 8 km à 8%, il tient à la Philippe en 30 secondes, donc il a sacrément progressé en montagne. Moi, je le verrais bien, j'aurais bien me claquer l'étape de Pralou là, parce qu'il y a une grosse descente. Le col d'Allo, c'est assez roulant, c'est peut-être long, mais c'est très roulant, c'est des pentes à 5%. Une descente extrêmement dangereuse et il peut faire un coup à la bardée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il en est complètement capable de la claquer.
Oh, mais il va avoir la bagarre avant. Avant, je pense que la bagarre sera déclenchée légèrement avant.
Mais il est dans tous les coups. Ça fait 4 jours qu'il est dans tous les coups, Thierry.
Après une journée de repos, il peut être encore dans le coup du début. Ouais. Mais y aura-t-il un coup?
Il y aura sans doute un coup dans cette étape quand même, non? Ça va partir de là.
Oui, quand même.
Non, Cyril, les aptitudes de Sagan en montagne, qu'est-ce que tu en penses?
Non, sur le col de Mans, ok.
Sur le col d'Allos,
mais pas au-dessus.
Ouais. Col d'Allos, c'est quand même 14 km à 5,5%.
Avant d'arriver là, vous avez le col des Lecs, vous avez le col de toute Aurès, des Ors, pardon, je vois pas clair.
Et le col de la
Col, et puis après vous avez le col d'Allos, et puis vous finissez par Pralou. Non, là il joue pas, il va essayer d'arriver pour marquer peut-être des points, mais il en a même plus besoin. Donc il faut qu'il assure maintenant pour arriver à Paris. Non, là, on est sur des cols où il peut pas jouer. C'est... Non, non, il peut pas jouer.
Ouais. Ou voilà. Alors, on pourrait s'interroger.
Ouais. Ah, ça y est, je te vois venir.
Tu sais qu'on n'a pas le droit de se poser des questions.
Mais non, on n'a pas le droit. Non,
mais il y a les favoris qui sont placés au général qui vont certainement tenter, c'est sûr, dans le col d'Alos.
Alors, on aura le temps d'en reparler. Ce sera mercredi. Ce sera la première grande étape des Alpes. Merci en tous les cas à Charles d'être venu au 32-16.
En tout cas, demain, il ne va rien se passer.
Demain, il ne va rien se passer. Peut-être.
Salut et merci d'avoir été d'accord avec moi.
Ne t'avance pas comme ça, Loucho.
Il y a toujours des
Il se passe toujours des choses lors des journées de repos.
Ça y est, je sais où vous voulez en venir une fois.
Regarde Basso.
Oui, il se passe toujours quelque chose. Bon.
RMC Intégral Tour.
Peter Sagan en vert, Chris Froome en jaune. Le leader de la Sky va gagner le Tour de France, ça c'est sûr. Mais les patrons de la Sky commencent à s'agacer un petit peu. L'atmosphère de suspicion autour de leur équipe, ça suffit. Ils vont donc contre-attaquer. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
Il est 17h45, c'est l'intégral tour et à force de remonter le temps pendant cette journée de repos, on arrive à la jonction comme si c'était hier, 20 juillet, entre Bourg-de-Péage et Gap. L'Espagnol Plaza gagne, Peter Sagan est deuxième comme d'habitude, Chris Froome est en jaune comme d'habitude, mais les patrons de la Sky ne rient pas, les critiques des consultants français, leurs soupçons, ça suffit, Sky contre-attaque et la Dream Team RMC Sport encaisse.
La formation Sky est un petit peu moins bien puisque Peter Kinnoff, le champion d'Angleterre, a abandonné aujourd'hui.
Il était déjà à la rupture.
Il était un peu à la rupture, mais bon, il avait quand même fait pas mal de boulot dans les Pyrénées, énorme boulot, notamment dans la plaine. Geraint Thomas, bon, a priori, c'est pas trop grave, mais bon, on se ressent quand même toujours d'une telle chute souvent deux jours après. Demain. Il y a la journée de repos demain, heureusement. Et puis Richie Porte est plus loin. Alors peut-être s'est-il un peu mis en réserve aujourd'hui.
Il fait une étape sur deux.
Déjà il y a deux ans, il faisait la même chose. Rappelez-vous, l'étape des Pyrénées, la première étape, il a été devant. Le lendemain, il prend 25 minutes alors qu'il n'y avait pas de quoi prendre 25 minutes, je sais pas. Et bon, c'est bien. C'est bien.
Ouais.
Il sera au rendez-vous, je pense, dans les Alpes.
Pas de soucis pour lui.
Ah oui.
Donc pas inquiet pour les équipiers de Chris Froome, il a sa garde prétorienne toujours aussi vaillante ou il a perdu des plumes quand même dans l'histoire.
Écoutez, si elle n'est pas aussi vaillante, les autres gardes des autres leaders ne sont pas mieux non plus, voire sont beaucoup plus mal. Donc il faut comparer ce qui est comparable, même s'il a perdu Kenoff aujourd'hui, même si Geraint Thomas peut avoir encore quelques courbatures qui vont le gêner après-demain. Il a encore de la réserve. Ne soyons pas inquiets pour lui. Comme je le dis, les autres équipes sont beaucoup plus mal loties que la Sky.
On va prendre Johnny qui est au 32-16. Johnny qui voulait intervenir, nous parler de Froome et de ses équipiers. Bonsoir Johnny.
Bonsoir la Dream Team.
Salut Johnny. Et
donc, après avoir vu les étapes pyrénéennes et les étapes, surtout celles de Mende, moi je vois c'est que Froome il se laisse traîner, enfin c'est un grand mot, mais il se laisse porter par ses équipiers et puis dans la dernière montée lui il a juste à passer la seconde voire même la troisième, il a un rythme de pédalage qui est plus impressionnant que les autres, ça c'est clair, et là c'est ce qui se passera dans la première étape alpestre, il va se laisser traîner par ses coéquipiers et puis dans la montée à Pradoux, il mettra une grosse mine comme il a mis à la Pierre Saint-Martin, et puis il gagnera l'étape, et puis le tour sera plié.
Et voilà. Bon, on peut rentrer à Paris alors, d'ores et déjà, non?
C'est non, plié. Non, parce qu'il y a Sagan qui va nous faire un numéro, parce qu'il va y avoir,
les attaques de Quintana.
Bardet ou Pinot qui vont nous faire une cagade, je sais pas, moi. Il se passe toujours quelque
et
chose.
Et puis Contador va vouloir monter sur le podium, il est cinquième, il va vouloir peut-être monter sur le podium.
Il allume des pétards mouillés,
Il va avoir une prise de risque de tout le monde, là.
Il va prendre des risques, Contador, pour monter sur le podium, ça c'est clair et net. Il va y avoir de la course derrière.
Je ne vois pas Contador finir sur le podium.
On verra pas la peau de l'ours.
Il en a deux devant. Pour l'instant, Van Garderen et Valverde.
Pour l'instant, Contador, à chaque fois qu'il y a eu une explication, à chaque fois, il a dégueulé du temps.
Froome et Quintana, oui.
On verra bien.
Ah, merci. De toute façon, les deux premiers, oui, c'est, ça y est, c'est fait, c'est entériné. Hein. C'est les deux premiers du Tour de France qui sont là. Hein. C'est Quintana, enfin Froome Quintana.
Il y a une semaine de course encore.
Il reste une semaine de course. Il y a des grandes étapes dans les Alpes. Quatre jours, quatre étapes de montagne quand même. C'est pas rien, non. C'est
la veille d'arriver sur les champs, l'étape de l'Alpe d'Huez quand même.
Bah oui, du haut de l'Alpe d'Huez, ils verront la Tour Eiffel, mais il faut y arriver quand même à l'Alpe d'Huez.
On n'y est pas arrivé d'abord.
Merci Johnny en tous les cas d'être venu au 32-16. On va se régaler durant cette dernière semaine de Tour de France. Les Sky donc un petit peu amoindri aujourd'hui, mais bon, ça va quand même, ils s'en sortent pas trop mal. Georges Quirino nous a rejoint, l'homme qui suit le feuilleton Sky depuis plusieurs jours maintenant.
Bonjour.
il l'a bien Cyril. Oui, bonjour.
Salut Cyril.
Cyril regarde un œil noir. Je vous raconte ce qui se passe. Nous sommes dans notre petit studio.
Je n'aurai pas droit à ta bière ce soir.
Alors, Georges, le feuilleton Sky qui se poursuit. On a l'impression quand même que la tension est quelque peu retombée. Non, t'es pas d'accord avec ça. C'est pas retombé, ça reste très tendu.
En tout le cas, ce matin au bus de l'équipe Sky, c'était encore très tendu. On a pu le voir dans le visage du manager de l'équipe, Dave Brailsford, qui a convocation de Dave Brailsford à l'équipe de France Télévisions. Parce que hier, lors de l'émission Stade 2, un reportage a été diffusé, où notamment un scientifique, Pierre Salé, notamment un spécialiste des performances, qui a notamment travaillé sur le passeport biologique, a étudié la montée de la Pierre Saint-Martin et déterminé qu'il pouvait y avoir effectivement, on pouvait se poser la question sur le niveau de performance de Chris Froome, qui était au-delà de performance humaine, on va dire normale en tous les cas. Dave Brailsford a été questionné là-dessus. Il a dit bon, je me suis senti un peu pris au piège sur le plateau de Stade 2, un peu mal à l'aise. Il dit voilà, France 2 est venu, ils ont voulu me faire un bon coup, ils nous ont présenté des chiffres sans réflexion. Il dit ils ont pas fait leur travail comme des professionnels, et surtout il leur manquait une valeur à France 2, c'était le poids de Christopher Froome. Hier, Dave Brailsford a été interrogé là-dessus, quel est le poids de Chris Froome alors pour qu'on puisse bien faire les calculs. Il n'a pas pu répondre hier soir. Ça a fait une petite polémique sur les réseaux sociaux, tout ça. Bah, tiens, mais comment le patron de Froome peut pas connaître son poids? On lui a posé la question, du coup, à Dave Brailsford ce matin. Pourquoi il connaissait pas le poids de Chris Froome? Dave Brailsford, on l'écoute.
Hier matin, je connaissais pas. Et vous savez, avec les déceleration, on prend le poids de matin, le poids après le course, ça change quand même. Et ça change, ça peut être une marge, un ou deux kilogrammes. Alors, si vous voulez que j'ai dit un chiffre, après il sort, ça en français, le truc pour prendre le poids. Il sort un balance, il met ça sur le pied de Chris, et c'est, moi j'ai pas juste. Après, ouais, je suis en train de mentir, alors là il faut que je fasse attention, je dis quand même.
Bon, en gros, je voulais pas donner le poids de Chris Froome sans être sûr, et après ça va être mal interprété. C'était un peu ce que disait Brailsford, qui a indiqué que en gros il allait peut-être demain donner les vrais chiffres de la montée de la Pierre Saint-Martin, les révéler lors de la conférence de presse de la formation Sky, en gros pour montrer à quel point nos amis de France Télévisions ont sous-estimé leur marge d'erreur dans leurs calculs. Très bien, demain alors nous allons savoir à France Télévisions également où on a posé la question à Dave Brailsford sur les contrôles à Tenerife, là où ils vont faire les stages au pied du volcan Teide, en leur disant mais vous n'êtes pas contrôlés là-bas. Brailsford a répondu ce matin, ça c'est vraiment malhonnête de leur part. Il a dit on a été contrôlés 25 fois au volcan Teide depuis janvier, on a fait 3 stages là-bas. Donc voilà, il a voulu faire une mise au point là-dessus, le Britannique, qui était encore un peu marqué ce matin, qui s'en est aussi pris un peu à l'Union Cycliste Internationale, parce qu'il dit lui qu'il était pour qu'on mette en place un passeport de puissance, notamment pour le terminer avec les watts et tout, si les coureurs sont peut-être dopés. Et Brian Cookson était là aujourd'hui, le président du CI, il est même pas venu parler à Sky.
Donc, c'est l'ancien président de
la Fédération britannique de cyclisme. Voilà.
Grande entente avec Brailsford pendant des années.
Mais Brailsford dit le problème c'est que plus personne croit en les contrôles de l'UCI, mais ils viennent pas parler avec nous. Donc pourquoi essayer d'améliorer les choses.
Au renfort de l'équipe Sky, toute la presse britannique qui est vent debout contre les
experts et pseudo-experts. Comme
on est aimé en Angleterre, nous a dit dans les soirs de ce matin.
Ah oui, ils sont aimés en Angleterre, évidemment. Dans le Sunday Times, avec un édito terrible de David Walsh, celui qui avait fait tomber Lance Armstrong, mais qui depuis travaille pour la formation Sky, qui a bon, je vous conseille d'aller lire ça sur le Sunday Times, ou encore l'équipe de ITV qui diffuse le tour en Angleterre et qui hier a coincé Laurent Jalabert. Là aussi, Chris Froome a tweeté hier soir en montant un lien avec le reportage.
En lui montrant, en disant, tu vois Laurent, maintenant je sais vraiment ce que tu as dit, on a les enregistrements. Donc tu ne peux plus démentir.
Voilà, puisque voilà.
C'est de la folie. On est dans la paranoïa.
L'empire contre-attaque.
Et voilà, le bus de la formation Sky,
c'est l'étoile noire.
Baptisé l'étoile noire par les reporters qui tournent tous les matins autour de l'équipe Sky. Voilà, bon, ambiance, c'est le Tour de France, quoi. C'est le Tour de France, hein, Lucho. C'est la fête.
Mais alors, écoute, moi, je vais te dire une chose. Je vais peut-être me mettre du monde à dos, mais je m'en contrefiche complètement.
Oui.
Je suis complètement avec la presse britannique. Je suis complètement avec la presse britannique. S'il y en a qui veulent faire encore des polémiques sur le tour, que ce soit France 2 ou d'autres, s'ils ont des comptes à régler, eh bien qu'ils règlent leurs comptes après le Tour de France. Mais qu'ils nous fichent la paix, parce que s'ils font de l'audience à la télévision, c'est bien grâce aux acteurs, c'est bien grâce aux coureurs, c'est bien grâce à tout ça. Est-ce que tu vas me laisser terminer? Pourquoi je serai à côté de la plaque? Froome, il y a des contrôles tout le temps. Il y a des contrôles même la nuit, il y a des contrôles le soir, il y a eu 25 contrôles à Tenerife, il y en a eu plein de contrôles. Est-ce qu'il a été contrôlé positif une seule fois?
Lance Armstrong, il a eu combien de contrôles dans sa carrière?
Laisse-moi terminer. Si je me plante plus tard, je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, il faut laisser Froome tranquille, faire son boulot. Il bosse, c'est un professionnel, comme les autres coureurs sont des professionnels. Et maintenant, bouclez-la tous! Et France 2 en premier! Il y en a plein qui donnent des leçons et qui feraient mieux de se regarder. Laisse-moi terminer, Thierry. Il y en a plein qui donnent des leçons de morale.
Mais qui
devraient.
Mais personne ne donne.
Est-ce qu'ils ont une bonne conscience, qui ont une mauvaise conscience et qui devraient se regarder dans la glace le matin? Il y en a certains qui donnent des leçons aujourd'hui, ce soir, et qui devraient se regarder dans la glace le matin, de savoir s'ils sont bien eux aussi.
Mais de qui, hein, de qui tu parles, tous ceux
qui critiquent.
Oui.
Est-ce que tout le monde est blanc dans sa vie? Est-ce que tout le monde est blanc comme neige dans sa vie?
Ah oui, d'accord.
Je peux te dire une chose. Moi, je prends mes responsabilités. Moi, j'adore Froome. J'adore son équipe. J'adore ce qu'ils sont en train de faire. L'évolution qu'ils sont en train de prendre dans le cyclisme et tout. Et pour moi, ce sont des exemples. Alors maintenant, stop.
Très bien.
Et je prends ma propre responsabilité. Je te dis ce que je pense. Basta. Terminé. Mais arrêtez.
Mais nous, on peut parler quand même.
Je ferme mon micro.
Voilà. Bon. Allez. Très bien. Voilà l'édito de Luc Leblanc.
Pour une fois, c'est bien.
Pour une fois, c'est le meilleur des mondes. Aucune question à se poser parce qu'autrement, on est tous des méchants à dire du mal.
RMC Intégral Tour.
Voilà, on vient de revivre la deuxième semaine du Tour de France ensemble sur RMC. C'était un peu agité. Je crois que vous êtes prêts à grimper les pentes des Alpes désormais avant les Champs-Élysées dimanche. Cyril Guimard sera avec moi à 18h15 pour parler de ces derniers jours de course qui nous attendent. C'est maintenant l'heure du récap course avec Frédéric Zermati. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Le quintet aujourd'hui se dispute sur les formes de Vichy. Les étalons partant, le 5 et la victoire pour son favori, le 8 Minotaur, devant le 4 Eos Kerkus, le 14 Vizcaya, l'As Parzival et le numéro 3 Maquisard. 8, 4, 14 AC3, 40 844 euros dans l'ordre exact d'arrivée. La tirelire n'est pas tombée, elle sera demain de 4,9 millions sur l'hippodrome d'Enghien. Je vais me tourner vers notre partenaire Gini Course et Cédric Yetta pour savoir ce qu'il en pense pour demain. Est-ce que tu nous as trouvé un petit chocolat, Cédric?
Bonsoir à tous. J'aime bien le numéro 14, Urgos. Je pense que c'est une valeur sûre, entraînée, drivée par le crack Jean-Michel Bazir. Numéro 14 qui reste sur des tentatives très encourageantes. Là, il faudra rendre 25 mètres, mais le lot n'a rien d'exceptionnel. Donc, j'attends une bonne tentative de sa part.
Moi, je vous conseille de vous appuyer sur le 15 Rocky Winner qui a été impressionnant l'autre jour. Et s'il répète ça, à mon avis, il ne devrait pas être battu. Des autres infos, des bonnes affaires sur rmcsport.fr.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans un instant, le Tour de France avec Cyril Guimard, un volleyeur entendu par la police, le tennis français qui ne va pas très bien et la reprise au PSG Handball. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.